22h sur France Culture, le journal est présenté par Boris Loumagne.
Bonsoir à tous. L'huile de palme, ce n'est peut-être pas si écolo que ça. Cette huile ne fait plus partie des biocarburants. C'en est donc fini des avantages fiscaux octroyés à Total, notamment. Les députés viennent d'en décider ainsi. Ils avaient voté le contraire hier en toute discrétion, mais après le tollé suscité aujourd'hui, les députés font donc marche arrière, nous expliquera Rosalie Lafarge. 200 actions prévues partout en France demain pour le réveil des Gilets jaunes. Un an, jour pour jour, après le début de la mobilisation. Le tout dans un contexte de convergence des luttes. Les étudiants mobilisés contre la précarité, vous l'entendrez, et les soignants dans les rues cette semaine. Et pourtant, le pouvoir d'achat des ménages augmente. 400 euros en moyenne cette année pour les gagnants des mesures d'urgence décidées par le gouvernement en réponse à la crise des Gilets jaunes. C'est la conclusion d'une étude de l'OFCE. L'économiste Mathieu Plane la décryptera avec nous dans ce journal. Et puis nous irons au Liban, où là-bas aussi des citoyens se mobilisent. Eux défilent contre une élite politique inamovible. Un nouveau Premier ministre pourrait être désigné, mais cet homme est justement l'un des représentants de cette élite. Sans surprise, donc, l'Assemblée nationale vient de retirer l'huile de palme de la liste des biocarburants. Et pourtant, quelques députés avaient décidé le contraire la nuit dernière. Ils avaient voté un amendement prévoyant le report à 2026 de l'exclusion de cette huile de palme de la liste des biocarburants. Ces biocarburants qui bénéficient d'un avantage fiscal. Problème, cette adoption en catimini a provoqué un tollé aujourd'hui, Rosalie Lafarge.
L'an dernier, l'Assemblée nationale adopte de justesse l'exclusion de l'huile de palme de la liste des biocarburants dès le 1er janvier 2020. C'est la fin d'un gros avantage fiscal pour Total. Hier soir, sans débat, en quelques toutes petites minutes, elle repousse à 2026. Les associations écologistes et bon nombre de députés, même au sein de la majorité, crient au scandale. Sentiment extrêmement désagréable de s'être bien fait avoir, écrit par exemple la marcheuse Barbara Pompili sur les réseaux sociaux. Face au tollé, des parlementaires réclament un nouveau vote. Le Premier ministre reconnaît l'absence d'un débat suffisant sur un sujet aussi important que l'huile de palme et demande lui aussi un nouvel examen. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, évoque la possibilité de mettre en place un groupe de travail et propose d'adopter l'amendement à titre d'attente. Il est finalement rejeté par 58 voix contre 2. Décision saluée par Greenpeace. Malgré les pressions intenses exercées par Total depuis un an, souligne l'organisation, les députés ont réussi à défendre une évidence, la nécessité absolue de protéger les forêts tropicales.
Rosalie Lafarge. Ségolène Royal va porter plainte pour diffamation contre la cellule Investigation de Radio France. Selon une enquête, Ségolène Royal utilise des moyens que le ministère des Affaires étrangères met à sa disposition pour des missions qui semblent éloignées de sa fonction d'ambassadrice des pôles. Radio France, de son côté, maintient l'ensemble des informations publiées. Cette enquête est à retrouver sur franceculture.fr. Un an de mobilisation, un an à créer du lien sur les ronds-points, un an que cette France périurbaine défile dans les rues des villes et des villages. Un an de colère sociale et après quelques mois d'essoufflement, le mouvement des Gilets jaunes va tenter justement de trouver son second souffle demain pour son anniversaire. Plusieurs milliers de personnes attendues à Paris, 200 actions organisées partout en France, le tout dans un contexte de convergence des luttes, crise des étudiants, nous le verrons dans quelques instants, crise des hôpitaux. Tara Schlegel a d'ailleurs croisé un gilet jaune dans le cortège parisien des soignants hier.
Je m'appelle Robin, je suis gilet jaune depuis maintenant un an, et donc une des raisons pour laquelle je suis descendu dans la rue, donc c'est pour défendre le service public. Parce que de l'argent, il y en a. Il y a 80 milliards d'évasion fiscale par an, il y a 40 milliards d'intérêts de la dette. Et c'est toujours au même auquel on demande de faire des économies. Je suis là pour défendre ça. On veut plus de soignants, on veut plus de moyens, on veut aussi une augmentation des salaires qui ont été gelés depuis maintenant 10 ans. Parce que c'est de notre santé qu'il s'agit. Et qu'encore une fois, des soignants épuisés, c'est des patients qui sont en danger de mort, comme on a pu le voir ces derniers mois. Parce qu'il y a de plus en plus d'accidents, il n'y a plus de lits. Les urgences, maintenant, c'est des heures et des heures avant d'être soignés. C'est aussi des aides-soignants qui se font violenter, justement, parce que les gens patientent trop. Après, est-ce que ça va bouger? Je ne sais pas. On est face à un gouvernement qui, depuis maintenant un an, est sourd à toutes nos revendications, qui est très méprisant, qui nous calomnie et qui nous insulte en plus de ça. Donc, est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Moi, à l'heure actuelle, c'est vrai que je souhaite la convergence des luttes, que ce soit donc avec les étudiants, avec les pompiers, même avec la police, si elle voulait bien nous rejoindre. On est tous dans le même bateau, la même galère. Et là, on va continuer, en tout cas, c'est sûr.
Et Robin, ce gilet jaune sera donc dans le cortège parisien demain. Robin, fait-il partie de ces Français qui ont vu leur pouvoir d'achat quelque peu s'améliorer ces derniers temps? Peut-être, en tout cas, ils sont nombreux, ces ménages, à avoir bénéficié des mesures prises en urgence pour répondre à la crise des gilets jaunes. Revalorisation de la prime d'activité, défiscalisation des heures supplémentaires, baisse de la CSG notamment. Ces mesures auront donc permis l'augmentation du pouvoir d'achat en 2019, 10 milliards d'euros en plus cette année, près de 7 milliards en 2020. Mathieu Plane, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste à l'OFCE et selon donc cette étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques portant sur ces mesures, on arrive à la conclusion suivante. 3 ménages sur 4 ont été gagnants en termes de pouvoir d'achat, alors qu'ils sont justement dans le détail ces gagnants et ces perdants.
Oui, alors effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des mesures exceptionnelles en fait, hein, qui font suite au mouvement des gilets jaunes, hein, qui ont été prises notamment en décembre. Et globalement, on a un package de 10 milliards. Alors, il faut savoir qu'on en a aussi en 2020, hein, suite au grand débat. Il y a aussi des mesures qui vont arriver avec la baisse d'impôts notamment. Mais si on cible juste 2019, on voit qu'on a une orientation quand même des mesures qui sont très ciblées, on va dire classe moyenne, mais classe moyenne. Plutôt bas de la classe moyenne d'ailleurs, hein, ciblé sur les salariés du secteur privé. Donc globalement, c'est eux qui vont être plutôt les gagnants, donc une orientation très nette hein, par rapport à 2018 où c'était vraiment des mesures fiscales qui étaient ciblées sur plutôt les plus fortunés. Là, donc on a une réorientation classe moyenne et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est des personnes surtout qui sont au travail, donc qui vont bénéficier de la prime d'activité ou de la défiscalisation notamment des heures sup. Alors bien sûr, à ça s'ajoute la baisse de taxes d'habitation hein, qui était déjà prévue. Mais globalement, on a un package assez significatif pour ces personnes-là. Mais ça veut dire aussi que certaines personnes et certains ménages ne bénéficient pas des mesures et même peuvent voir leur pouvoir d'achat baisser. Et ces ménages-là sont un peu aux deux extrémités hein, de niveau de vie. C'est-à-dire que d'un côté, on a les plus modestes, les plus précaires, mais qui sont pas dans l'activité, qui sont pas dans le travail. Pour le coup, ça peut être des chômeurs qui voient même leurs droits qui peuvent être diminués, qui bénéficient pas des mesures de revalorisation du travail, comme la prime d'activité par exemple, et qui n'ont pas de revalorisation des minima du minima sociaux. Et puis de l'autre côté, on a plutôt des retraités aisés qui ne voient pas de réindexation de leur retraite, qui ne bénéficient pas de la baisse de taxes d'habitation et qui n'ont pas assez de patrimoine pour bénéficier d'une réforme de l'ISF. Donc malgré tout, même s'il y a un mouvement fiscal important pour l'ensemble des ménages en France, il faut le souligner, on n'a pas vu ça depuis 2007, malgré tout, il reste encore des perdants.
Alors sur les ronds-points, à propos de ces perdants, dans les rues et parmi ceux qui portaient le gilet jaune, beaucoup de retraités, parmi eux, beaucoup de perdants aussi, alors à vous écouter, oui. Mathieu Plane.
Bah, on va dire, alors eux c'était vraiment les grands perdants du début du quinquennat, c'est-à-dire qu'ils avaient été... perdant sur le pouvoir d'achat, que ce soit par la hausse de CSG hein, qui venait compenser les baisses de cotisations, donc ça faisait du gain de pouvoir d'achat pour les salariés, mais qui était financé par des pertes de revenus des retraités. Et puis à ça s'était ajouté le gel des retraites, et donc pas de revalorisation des retraites, et donc une perte de pouvoir d'achat vu que les prix augmentent. Là, il y a eu un effort qui a été fait par le gouvernement de ce côté-là pour rétablir un peu les choses. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de CSG à nouveau pour un certain nombre de retraités jusqu'à 2000 euros et une réindexation des retraites à partir de 2020 jusqu'à, je crois que c'est aussi 2000 euros. Ce qui veut dire que pour un certain nombre de retraités, finalement, le tir finalement a été corrigé, mais il reste quand même les retraités qui sont au-delà de 2000, 2500 euros qui sont encore perdants parce qu'ils ont vu la hausse de CSG et un gel de leur retraite, et pour certains ils bénéficient pas de la baisse de taxes d'habitation. Donc c'est vrai que ce qui est assez compliqué avec les mesures qui sont décidées, c'est que d'abord il y a beaucoup de mesures fiscales, il y a beaucoup de transferts qui sont réalisés, et donc il est toujours difficile de savoir où vous situez dans ce package fiscal, et donc c'est peut-être aussi pourquoi il y a une forme de scepticisme ou voire de défiance par rapport aux baisses d'impôts. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas vu l'ensemble des augmentations ou de baisses d'impôts, il est difficile aujourd'hui de vous situer sur l'échiquier.
Alors il y a également un effet indirect qui peut paraître surprenant à première vue. Ces mesures ont permis une hausse des revenus, mais en parallèle on note un surcroît d'épargne chez les Français. Oui. Est-ce que c'est le signe d'un climat général qui est encore morose, le signe peut-être d'une confiance qui ne serait pas encore revenue?
Oui, alors ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a une augmentation du pouvoir d'achat qui est vraiment significative d'un point de vue macroéconomique hein, pour 2019. Hein, il faut revenir à 2007 pour une telle augmentation. Mais on voit une consommation finalement qui augmente, mais de façon finalement assez modeste au regard de la hausse du revenu. Et une part s'explique justement par une forme d'épargne de précaution qu'on n'attendait pas forcément hein, et qui fait que les ménages français qui sont déjà en général prudents hein, en termes de comportement d'épargne, épargnent même plus que d'habitude. Et peut-être l'inquiétude finalement de se dire que ce qui a été gagné d'un côté par les baisses de fiscalité qui sont immédiates, hein, qu'on voit en 2019 et qu'on verra en 2020, finalement une partie pourrait être reprise par les économies à venir sur les dépenses de retraite, c'est-à-dire que le gouvernement dit il faut rétablir les équilibres financiers, notamment sur les retraites, et donc ça veut dire potentiellement des durées de cotisation plus longues, peut-être des départs en retraite plus tardifs, et donc les gains de pouvoir d'achat immédiats peuvent être en partie repris par des pertes futures, par des économies à réaliser. Et donc c'est peut-être ça qui crée cette incertitude générale, c'est de dire finalement, dans ce climat-là, je ne connais pas bien encore l'issue de mon pouvoir d'achat et donc j'attends, ou en tout cas je suis prudent dans mes comportements et les gains de fiscalité actuels sont plutôt épargnés face à un risque futur finalement de ralentissement en fait du pouvoir d'achat.
Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, merci d'avoir été notre invité sur France Culture. C'est un acte désespéré qui a déclenché cette nouvelle mobilisation des étudiants, la tentative de suicide par immolation d'un étudiant de Lyon en début de semaine. Depuis plusieurs jours, des incidents ont lieu dans les facs à Paris, Lyon ou Nantes. Pour en finir avec la précarité, voilà le mot d'ordre des protestataires. Des cours ont été annulés aujourd'hui à l'université de Nantes. Nantes, c'est là que Johan est étudiant en lettres.
Être précaire pour un étudiant, c'est normal. Et c'est vraiment là-dessus qu'on souhaiterait interpeller à la fois l'administration, le CROUS, et aussi les autres étudiants qui vivent cette situation, c'est que ce n'est pas normal, en fait. C'est pour ça qu'on est obligé de bloquer les universités pour provoquer cette discussion. Tout le monde le cache, effectivement, c'est caché. Et c'est ce qui nous fait peur, en fait. C'est que tout le monde subit et personne n'agit, personne ne fait rien. Et on est obligé de bloquer les facs pour que ces questions se posent. On est obligé de s'immoler pour que ces questions se posent. Et on n'a pas envie d'en venir jusque-là, quoi.
Et Johan, étudiant en lettres au micro de nos confrères de France Bleu Loire-Océan, Gabriel Attal, le secrétaire d'État à la jeunesse, a reçu les syndicats étudiants aujourd'hui. Aux États-Unis, Donald Trump accusé d'intimidation de témoins. Marie Yovanovitch, l'ex-ambassadrice américaine à Kiev, était entendue au Congrès aujourd'hui dans l'enquête en destitution qui vise le président américain. Et au moment de l'audition, le président Trump a envoyé une série de tweets. Partout où Marie Yovanovitch est passée, les choses ont mal tourné, écrit-il notamment. Il s'agit d'une intimidation de témoins en direct, c'est ce qu'a commenté un élu démocrate. Depuis des mois, il manifeste contre les élites politiques au pouvoir et les Libanais apprennent aujourd'hui la possible désignation d'un nouveau Premier ministre issu de cette classe politique dirigeante. Colère donc, consternation également. La foule s'est rassemblée dans plusieurs villes du pays. À Beyrouth, Aurélien Colli.
Des pluies diluviennes n'ont pas facilité la mobilisation dans la rue, mais des manifestations et des coupures de route ont quand même eu lieu dans certaines villes, notamment à Tripoli, grande cité du Nord, épicentre de la contestation depuis la mi-octobre, mais aussi ville d'origine de Mohamed Safadi, pressenti désormais pour devenir le nouveau Premier ministre libanais. Là-bas, des manifestants se sont rassemblés devant l'une des propriétés de ce richissime homme d'affaires, âgé de 75 ans et qui a déjà été ministre des Finances. Une personnalité bien connue, pas encore officiellement nommée, mais déjà rejeté par la rue tant il incarne le système et la vieille garde politique dont les Libanais veulent justement se débarrasser. Son nom aurait émergé après le refus du Premier ministre sortant, Saad Hariri, de rediriger un cabinet qui ne soit pas exclusivement technique, conformément aux revendications de la rue, mais refus du président Michel Aoun et de ses alliés Amal Hezbollah, qui veulent un gouvernement technopolitique, un mélange d'experts et de représentants des forces politiques qui pourront ainsi garder le contrôle. La mobilisation ce week-end dira si les Libanais vont se contenter de ça ou pas.
Aurélien Colli. Le témoignage d'Adèle Haenel contre Christophe Ruggia et celui de Valentine Monnier contre Roman Polanski poussent le cinéma français à agir. La Société des réalisateurs de films appelle à des états généraux sur les questions d'abus sexuels et de harcèlement dans le 7e art. Pour l'une des principales organisations françaises de cinéastes, il s'agirait d'aboutir à une charte, un code de conduite commun et des mesures spécifiques. Le temps pour demain, ce sera encore perturbé sur un large quart sud-ouest du pays. pays et sur l'extrême sud-est. Des pluies modérées à attendre sur l'Aquitaine et les Pyrénées. Il neigera sur l'ouest du Massif central et sur les hauteurs du Limousin. Les températures minimales varieront entre 0 et 5 degrés en moyenne, de 6 à 10 degrés dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.